RVA.
Cette semaine, partons à la découverte du village d'Usson, classé parmi les plus beaux villages de France. Ce lieu situé au sud d'Issoire fait partie intégrante de l'histoire d'Auvergne et de France. En effet, pendant près de 19 ans, la reine Margot a été retenue prisonnière ici, au château d'Usson, sur ordre de son frère le roi Henri III. Sur place, nous avons rencontré Myriam Bayol, responsable du pays d'art et d'histoire d'Issoire, pour nous raconter toute l'histoire qui existe autour de ce village. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Usson et nous dire qu'est-ce qui fait la particularité de ce village?
Nous sommes à Usson, effectivement, donc sur les pentes de ce piton volcanique qui culmine à 634 mètres d'altitude et qui émerge de la limagne d'Issoire. Un village qui séduit particulièrement par son architecture, donc qui est reconnue donc au sein du réseau des plus beaux villages de France. Cette architecture tranche peut-être avec d'autres villages des alentours d'Issoire par son matériau volcanique, ses orgues prismatiques de forme hexagonale qui ont été découpés, puisés à proximité immédiate et qui ont permis d'élever tant le château aujourd'hui disparu que donc les maisons des villages, mais aussi les murets, les terrasses, les façades.
Alors maintenant, place à l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport au site? Est-ce qu'il était habité par d'autres civilisations avant de connaître la forme qu'il a aujourd'hui?
On a des témoignages d'une occupation humaine avant l'an 1000 et la certitude de la présence d'un château, d'une église et d'un village dès le Xe siècle. C'est le cartulaire de l'abbaye de Sauxilange, toute proche, voisine, qui témoigne donc de la présence du château, du village et de l'église. Après, effectivement, c'était donc un château des comtes d'Auvergne du XIIe au XIVe siècle. Et puis à la fin du XIVe siècle, en 1387, le comte d'Auvergne donc vend au duc de Berry le château aujourd'hui disparu. Celui-ci fait faire quelques aménagements et ce château à sa mort intègre le domaine royal, la mort du duc de Berry, au même moment qu'il fait également restaurer le château de Nonette où il résidera assez régulièrement à la fin du XIVe siècle.
Alors on voit qu'Usson a une place géographique bien particulière, située au milieu d'une vallée. En quoi cette place était-elle importante ?
D'une part, on est vraiment sur un axe d'échange important. C'était le chemin français, cette voie médiévale qui traversait tout le royaume, qui passait par Issoire et qui empruntait le Val d'Allier. C'était stratégique de tenir ici des châteaux qui, à cette époque-là, donc entre les 10, 11, 12e jusqu'au 15e siècle, étaient donc édifiés au sommet des reliefs volcaniques et qui permettaient vraiment donc de dominer l'espace. Mais aussi parce qu'on est au cœur d'un territoire fertile, très agricole, très densément occupé depuis l'Antiquité et de fait avec les habitats de hameaux, de villages, de nombreuses paroisses et un découpage seigneurial qui favorise effectivement une présence d'une aristocratie importante.
Justement, pourquoi avoir construit ce village ici en particulier sur un piton volcanique?
Alors parce que justement on a utilisé cette défense naturelle que représentait le relief pour y construire le château. Château fort, si possible difficilement prenable et avec donc une position par ailleurs symbolique, dominant vraiment le territoire, l'espace, le passage des routes. Donc c'est ainsi que dans toute la France, mais aussi l'Europe médiévale, on construisait les châteaux jusqu'à une période qui va être celle de la Renaissance où on va choisir des lieux de vie plus plaisants, plus proches, donc de plus commodes et permettant d'aménager aux alentours des parcs et des jardins.
On sait que le château avait des liens bien particuliers avec l'histoire de France et notamment la reine Margot. Justement, quel lien ce château avait-il avec la reine ?
Marguerite de Valois, qui est donc la fille de Catherine de Médicis et de Henri II, était comtesse d'Auvergne par sa mère. Il s'avère que pendant cette période compliquée des guerres de religion qui ponctuent la deuxième moitié du XVIe siècle, elle va se retrouver en difficulté entre la cour de Paris, mais aussi la cour de Navarre. Et à un moment donné, elle va venir se réfugier en Auvergne. Et c'est là que son frère, le roi Henri III, va la faire emprisonner. Et il va choisir pour ça donc le château d'Usson, où elle va être assignée à résidence à partir de 1586. Très rapidement, Marguerite de Valois va réussir à négocier une liberté d'abord toute relative, et puis de plus en plus accommodée. Et elle va choisir de rester ici à partir d'un certain moment. Et au final, elle va résider ici 19 ans. Donc elle était dans ce château qui lui appartenait. Elle va y entretenir une cour. Elle va s'entourer des membres de la noblesse locale. Elle va y rédiger ses mémoires, y faire venir des artistes. Et ce n'est qu'en 1605, après avoir négocié donc le démariage d'avec Henri de Navarre, qui entre-temps est devenu Henri IV, qu'elle va rejoindre Paris, où elle décédera, où elle mourra en 1615.
Vous l'avez bien dit, la reine Margot a été emprisonnée ici pendant près de 19 ans au village du Son. Quelles traces a-t-elle laissées dans ce lieu historique ainsi que partout finalement en Auvergne ?
Marguerite de Valois, elle a laissé une empreinte forte dans la mémoire des Auvergnats. Beaucoup de légendes sont racontées à son propos. Chaque fois qu'on voit une petite Marguerite qui décore un meuble, on pense que c'est une référence à Marguerite de Valois, dite la reine Margot ou encore la reine Marguerite plus tard. Et d'autre part, avant de quitter Usson, elle crée une donation pour les pauvres d'Usson, une donation qui sera ensuite transférée donc au couvent des Minimes puis à l'hôpital de Clermont. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur Marguerite de Valois, de nombreux écrits, certains d'entre eux quasiment contemporains à son existence, comme Brantôme qui a écrit sur Marguerite de Valois, d'autres plus très connus comme Alexandre Dumas dans son roman historique qui a donné lieu donc au film bien connu de Patrice Chéreau. Mais il y a eu aussi un pamphlet satirique qui a été écrit donc au XVIIe siècle. Et de nos jours, il y a des auteurs qui essaient de revisiter l'histoire de Marguerite de Valois en puisant dans sa très riche correspondance ou encore dans les livres de contes de sa vie ici au château d'Usson. Et ça permet d'aller un peu au-delà du mythe et de mieux connaître son train de vie, mais sa présence et comment elle avait choisi de s'entourer ici à Usson.
Après de nombreuses années marquées par le temps, le château est maintenant disparu. Quel vestige reste-t-il du château d'Usson ?
Le château est abattu sur ordre royal en 1633. Dans ce contexte donc d'affirmation du pouvoir monarchique qui souhaite faire disparaître ces châteaux des nobles de l'aristocratie provinciale, le château disparaît ainsi que ses trois enceintes. Néanmoins, si on veut se faire une petite idée de ce château, on peut feuilleter l'armorial de Revel, qui est donc un document qui est réalisé au milieu du XVe siècle et qui montre une vue très symbolique du château et de ses trois enceintes, ce qui a d'ailleurs donné lieu à une image pour le désigner, la tiare. Comme une couronne papale. Mais c'est plus l'enceinte du village, donc la quatrième en fait, celle qui protégeait les différents quartiers qui se sont développés au nord, à l'ouest, mais aussi à l'est et au sud, un peu sur les quatre faces du Piton, qui conserve le souvenir des fortifications globalement du village et du château.
Alors maintenant, passons un peu à l'aspect touristique. Quels sont les éléments incontournables que l'on peut visiter au village d'Usson ?
Le dispositif de Scénovision est installé effectivement sous le bureau de tourisme, retrace les grandes étapes de l'histoire du village et du château et évoque la présence également de Marguerite de Valois. Ensuite, effectivement, à ne pas rater, c'est bien sûr la visite de l'église qui est ouverte en saison, accessible donc avec quelqu'un qui vous donnera des explications sur l'histoire du village et de l'église. Et puis bien sûr, il faut monter au sommet du promontoire, sans oublier de faire le tour de la butte pour bien apprécier tous les panoramas extraordinaires qu'on a ici sur le Val d'Allier, le Livradois et bien sûr ce panorama emblématique sur les monts volcaniques de l'ouest du Cantal en passant par le Cézallier, le massif du Sancy et aussi les volcans de la Comté parmi les plus anciens d'Europe.
Le village est également doté d'une église, l'église Saint-Maurice, qui a connu moult et moult histoires. Justement, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui fait la particularité de ce magnifique édifice religieux qui, on peut le dire, est vraiment unique en son genre ?
Donc c'est son mobilier qui est vraiment également très intéressant. Des tableaux, une résurrection de Lazare et une crucifixion de la fin du XVe et du XVIe siècle respectivement, qui sont vraiment des œuvres d'art exceptionnelles, et un certain tabernacle, effectivement, du XVIIe siècle, donc Renaissance, qui est vraiment intéressant parce qu'il figure la représentation de plusieurs saints, Saint Vernis, Saint Radegonde, Saint Maurice et Saint Roch, peints donc sur les panneaux de bois, mais aussi parce que la tradition veut qu'on puisse éventuellement y reconnaître la figure sous Saint Maurice d'Henri de Navarre et sous Saint Radegonde et ses fleurs de lys de Marguerite de Valois. Mais ça, c'est vraiment de la légende, pour séduire l'esprit, mais ce n'est pas une réalité historique.
On retrouve également des orgues lorsque l'on visite le village. Finalement, qu'est-ce que c'est ?
Les orgues, ce sont donc des prismes de blocs de lave longs, hexagonaux. C'est de la lave qui s'est contractée après être montée lors d'une éruption formation phréato-magmatique qui a créé un lac de marre, donc au sein de cette plaine du Val d'Allier qui était alors envahie d'eau. Et puis en se refroidissant, la lave se transforme en roche et donc forme ces longs prismes hexagonaux qui ressemblent à des orgues ou encore à des crayons de papier, enfin des mines de crayons de papier inclinés. Et cet endroit, on peut le visiter parce qu'il a fait l'objet d'une exploitation de la pierre. Donc ça a dégagé une sorte de petit amphithéâtre qui permet d'apprécier l'alignement de ces orgues basaltiques. On peut penser aussi à Saint-Flour, la ville de Saint-Flour qui est construite sur un ensemble d'orgues similaires.
On le sait un peu moins, mais le village du Son était aussi un ancien village viticole.
Oui, donc là on est dans le Val d'Allier, la Limagne, les petites Limagnes du sud du Puy-de-Dôme. Et donc tout ce couloir, toutes les pentes ont été cultivées en vigne de longue date. Le cartulaire de Sauxillanges au Xe siècle mentionne la présence de vignes à cette époque-là, mais la période, l'âge d'or du vignoble, c'est plus à partir du XVIIe, XVIIIe et surtout XIXe siècle, jusqu'à la crise du phylloxéra qui est ici à Usson attestée en 1899. Donc c'était une culture importante, complémentaire donc des revenus tirés de l'agriculture plus traditionnelle. Et cette culture de la vigne, elle a façonné l'habitat vigneron, un petit logis compact avec un perron. Elle donne le ton vraiment à l'architecture, aussi avec les pigeonniers qui étaient donc des annexes à vocation agricole où on élevait les pigeons pour leur engrais qui permettait de fertiliser les vignes, etc., etc. Ce qui donne aussi beaucoup de charme au village, c'est le contraste entre la pierre gris, bleutée, ces basaltes, les arkoses ou les granites blonds, et puis le fait d'avoir des toitures traditionnelles en tuiles canales et qui sont à faible pente et qui donnent un petit côté méditerranéen, provençal au village.
Enfin, pour finir, quelques mots sur la Vierge. Comment a-t-elle été construite et surtout, comment les bâtisseurs de l'époque ont-ils réussi à la monter, à la construire sur ce piton volcanique ?
Cette Vierge, c'est un projet de la commune, mais aussi de la paroisse, guidée étant effectivement d'édifier une statue à la Vierge qui était par ailleurs honorée également dans l'église du Son, qui a conservé par le passé une très belle Vierge en majesté romane du XIIe siècle, qui aujourd'hui est visible au musée de Marc Roger Quilliot de Clermont. Ce projet-là au long cours, qui était assez répandu à cette époque-là, a été donc de réaliser une statue en fonte, haute de 7 mètres, et de la transporter jusqu'au sommet de la butte. Il a fallu 2 jours, dit-on, donc un attelage de 10 bœufs et 60 hommes pour permettre de monter les 4 tronçons donc, de cette Vierge. Une statue à la Vierge qui a fait l'objet bien sûr d'un pèlerinage. Elle est édifiée, inaugurée en 1893. Et puis ensuite, on va construire une petite chapelle.
Voilà, donc je vous laisse le mot de la fin pour les personnes qui voudraient venir ici visiter le village et surtout qui voudraient venir découvrir tout l'aspect historique qui règne encore ici autour de ce village.
Usson, il faut vraiment prendre le temps de venir. Pour les Clermontois, il ne faut pas craindre de franchir ce fameux verrou des gorges de Saint-Ivoine. Voilà, venir passer une journée ici, profiter d'Usson et des environs. Et également aller visiter, pourquoi pas, la petite église de Maya, donc, que je n'ai pas citée, qui est juste à côté aussi, qui est extraordinaire.
Depuis 1982, Usson fait partie des plus beaux villages de France. Si vous souhaitez venir découvrir cette commune remplie d'histoire, elle est ouverte toute l'année aux visiteurs. Pour plus d'informations sur les endroits à visiter ou les activités à faire dans les alentours, rendez-vous sur le site www.usson.fr.